Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur, noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2 FM et de partout sur le net. Aujourd'hui, pas de spéciale fête de la musique, ça nous laissera un joker pour l'année prochaine si on ne sait pas quoi faire. Non, aujourd'hui nous allons parler de la corrélation entre l'état et l'intime avec le récent livre d'Edouard Louis, Qui a tué mon père ? Au studio, je suis accompagnée d'Amandine, d'Anne-Sophie et de Gauthier. Bonjour à vous trois.
Salut.
Bonjour.
Alors, dernièrement, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, le 18 juin, le gouvernement présente sa réforme de l'assurance chômage avec des conditions d'indemnisation plus dures et un meilleur encadrement flicage des chômeurs-chômeuses. Le 12 juin, Édouard Philippe tente de rassurer les Français et Françaises, c'est-à-dire que l'âge légal de départ à la retraite est bien sûr maintenu à 62 ans. Bon, par contre, si vous voulez avoir votre taux plein, faudra travailler plus longtemps. Enfin, on vous incite à travailler plus longtemps. Et on a vu aussi les urgentistes se mettre en arrêt maladie et le refus de certains profs d'encadrer les épreuves du bac, ce qui laisse sceptique sur l'engagement de l'État sur les services publics de la santé et de l'éducation. Dans son livre, Édouard Louis prend à partie les gouvernements successifs des dernières décennies en leur renvoyant la violence qu'ils ont produite par leurs actes, leurs paroles, leurs réformes sur le quotidien des classes populaires. Après plusieurs années d'absence, Édouard Louis retrouve son père qu'il ne reconnaît plus, tant son corps s'est transformé, cassé et quasi détruit par des années de servitude à l'usine en travaillant, par les contraintes économiques et sociales et par ce que les lois lui ont imposé. Alors rapidement un petit point sur l'auteur, donc c'est un écrivain français né en 92 dans le nord de la France. Il a déjà publié « Pour en finir avec Eddie Bellegueule » et « Histoire de la violence ». Ce texte « Qui a tué mon père » est né d'une nécessité de parler, de raconter la vie de ceux et celles dont on ne parle généralement pas. Et il est aussi né d'une proposition d'écriture faite par Stanislas Nordet, qui est le directeur du TNS, un théâtre national à Strasbourg. Et donc il l'a mis en scène cette saison à la Colline à Paris et aussi au TNS. Nous vous proposons aujourd'hui la première partie du texte et je vous souhaite une très belle écoute. Qui a tué mon père ? Édouard Louis. Si ce texte était un texte de théâtre, c'est avec ces mots-là qu'il faudrait commencer. Un père et un fils sont à quelques mètres l'un de l'autre dans un grand espace, vaste et vide. Cet espace pourrait être un champ de blé, une usine désinfectée et déserte, le gymnase plastifié d'une école. Peut-être qu'il neige. Peut-être que la neige les recouvre petit à petit jusqu'à les faire disparaître. Le père et le fils ne se regardent presque jamais. Seul le fils parle. Les premières phrases qu'il dit sont lues sur une feuille de papier ou un écran. Il essaye de s'adresser à son père, mais on ne sait pas pourquoi, c'est comme si le père ne pouvait pas l'entendre. Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se trouvent pas. Parfois, leur peau se touche, ils entrent en contact, mais même là, même dans ces moments-là, ils restent absents l'un de l'autre. Le fait que seul le fils parle, et seulement lui, est une chose violente pour eux deux. Le père est privé de la possibilité de raconter sa propre vie, et le fils voudrait une réponse qu'il n'obtiendra jamais. Partie 1.
Quand on lui demande ce que le mot « racisme » signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que
« Le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. »
Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants, et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée, et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre.
Le mois dernier, je suis venue te voir dans la petite ville du Nord où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vue depuis plusieurs mois. C'était il y a longtemps. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnue. Je t'ai regardée et j'ai essayé de lire les années passées loin de toi sur ton visage. Plus tard, la femme avec qui tu vis m'a expliqué que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit où ton cœur s'arrête.
Il ne peut plus battre sans assistance, sans l'aide d'une machine. Il ne veut plus battre.
Quand tu t'es levé pour aller aux toilettes et que tu es revenu, je l'ai vu. Les 10 mètres que tu as parcourus t'ont essoufflé. Tu as dû t'asseoir pour reprendre ta respiration. Tu t'es excusé. C'est une chose nouvelle, les excuses de ta part. Je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une forme de diabète grave, en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle. Ta poitrine se vidait de son oxygène, comme si elle fuyait. Même parler était un effort trop intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opéré pour ce que les médecins appellent une éventration. Je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même. Ton ventre s'étire vers le sol, il s'étire trop, trop fort. Tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse.
Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger.
Tu n'as plus le droit de boire d'alcool.
Tu ne peux plus te doucher seul.
Ou aller travailler sans prendre des risques immenses. Tu as à peine plus de 50 ans.
Tu appartiens à cette catégorie d'humains à qui la politique réserve une mort précoce.
Dans toute mon enfance, j'ai espéré ton absence. Je rentrais de l'école en fin d'après-midi, aux alentours de 5 heures. Je savais qu'au moment où je m'approchais de chez nous, si ta voiture n'était pas garée devant notre maison, cela voulait dire que tu étais parti au café ou chez ton frère, et que tu rentrerais tard, peut-être au début de la nuit. Si je ne voyais pas ta voiture sur le trottoir devant la maison, je savais qu'on mangerait sans toi, que ma mère finirait par hausser les épaules et nous servir le repas, et que je ne te verrais pas avant le lendemain. Tous les jours, quand je m'approchais de notre rue, je pensais à ta voiture et je priais dans ma tête. Faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit pas là, faites qu'elle ne soit pas là.
Je n'ai appris à te connaître que par accident ou par les autres. Il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à ma mère comment elle t'avait rencontré et pourquoi elle était tombée amoureuse de toi. Elle a répondu « le parfum ».
Il portait du parfum et à cette époque-là, tu sais, ce n'était pas comme maintenant. Les hommes ne mettaient jamais de parfum, ça ne se faisait pas. Mais ton père, oui. Lui, oui. Il était différent. Il sentait tellement bon.
Elle avait continué.
C'est lui qui voulait de moi. Moi, je venais de divorcer de mon premier mari, j'avais réussi à m'en débarrasser et j'étais plus heureuse comme ça, sans homme. Les femmes sont toujours plus heureuses sans homme. Sauf qu'il a insisté. Il arrivait à chaque fois avec du chocolat ou avec des fleurs. Alors j'ai fini par céder. j'ai cédé. Ce jour-là, ma mère m'avait surpris en train de danser seule dans ma chambre. J'avais essayé de faire des mouvements les plus silencieux possibles, de ne pas faire de bruit, de ne pas respirer trop fort. La musique n'était pas forte non plus, mais elle avait entendu quelque chose de l'autre côté de la paroi du mur et elle est venue voir ce qui se passait. J'ai sursauté. À bout de souffle, mon cœur dans la gorge, mes poumons dans la gorge, je me suis tournée vers elle et j'ai entendu, j'ai attendu. Cœur dans la gorge, poumons dans la gorge. Je m'attendais à un reproche ou à une moquerie, mais elle m'a dit avec un sourire que c'était quand je dansais que je ressemblais le plus à mon père. Je lui avais demandé, « Papa a déjà dansé ?»
Que ton corps ait déjà fait quelque chose d'aussi libre, d'aussi beau et d'aussi incompatible avec ton obsession de la masculinité, m'a fait comprendre que, peut-être, tu avais été une autre personne, un jour.
Ma mère avait fait oui de la tête.
Ton père dansait tout le temps, partout où il allait. Quand il dansait, tout le monde le regardait. J'étais fière que ce soit mon homme.
J'avais traversé la maison en courant, et j'étais venue te voir dans la cour, où tu coupais du bois pour l'hiver. Je voulais savoir si c'était vrai. Je voulais une preuve. Je t'ai répété ce qu'elle venait de me dire et tu as baissé les yeux en disant, avec une voix très lente, « Il ne faut pas croire à toutes les conneries que raconte ta mère. » Mais tu rougissais. Je savais que tu mentais. Un soir où j'étais seule parce que vous étiez partie manger chez des amis et que je n'avais pas voulu vous accompagner.
Souvenir du poêle à bois qui diffusait dans toute la maison son odeur de cendre et sa lumière, calmement orangée.
J'avais trouvé dans un vieil album de famille rongé par les mites et par l'humidité des photos sur lesquelles tu étais déguisée en femme, en majorette.
Depuis ma naissance, je t'avais vu mépriser tous les signes de féminité chez un homme. Je t'avais entendu dire qu'un homme ne devait jamais se comporter comme une femme. Jamais. Tu semblais avoir à peu près 30 ans sur les clichés. Je pense que j'étais né déjà.
J'ai observé jusqu'au bout de la nuit ces images de ton corps. De ton corps habillé d'une jupe, de la perruque sur ta tête, du rouge sur tes lèvres, de la poitrine artificielle sous ton t-shirt que tu avais dû bricoler avec du coton et un soutien-gorge. Le plus étonnant pour moi, c'est que tu avais l'air heureux. Tu souriais. J'ai volé une de ces photos et j'ai essayé de la déchiffrer ensuite, plusieurs fois par semaine, en la sortant du tiroir où je l'avais cachée. Je ne t'ai rien dit.
Un jour, j'ai écrit dans un carnet à propos de toi, « Faire l'histoire de sa vie, c'est écrire l'histoire de mon absence. »
Une autre fois, je t'ai surpris en train de regarder un opéra retransmis en direct à la télé. Tu n'avais jamais fait ça avant, pas devant moi. Quand la cantatrice a chanté sa complainte, j'ai vu tes yeux se mettre à briller.
Le plus incompréhensible, c'est que même ceux qui ne parviennent pas toujours à respecter les normes et les règles imposées par le monde s'acharnent à les faire respecter. Comme toi, quand tu disais qu'un homme ne devait jamais pleurer.
Est-ce que tu souffrais de cette chose, de ce paradoxe ? Est-ce que tu avais honte de pleurer, toi qui répétais qu'un homme ne devait pas pleurer? Je voudrais te dire, je pleure aussi, beaucoup, souvent.
Soirée d'hiver encore. Tu as invité du monde pour manger avec nous. Beaucoup d'amis. Ce n'est pas quelque chose que tu faisais souvent. J'ai eu l'idée de préparer un spectacle pour toi et pour les adultes qui étaient là. J'ai proposé à tous les enfants assis autour de la table, trois garçons en plus de moi, de venir dans ma chambre pour se préparer et répéter. J'avais décidé qu'on imiterait le concert d'un groupe de pop qui s'appelait Aqua, disparu depuis. J'ai inventé des chorégraphies pendant plus d'une heure, des mouvements, des gestes. Je donnais les ordres. J'avais choisi d'être la chanteuse. Les trois autres garçons feraient les chœurs et les musiciens en grattant sur des guitares invisibles. Je suis entrée le premier dans la salle à manger. Les autres me suivaient. J'ai donné le signal et nous avons commencé le spectacle. Mais tu as tout de suite tourné la tête. Je ne comprenais pas. Tous les adultes nous regardaient, mais pas toi. Je chantais plus fort. Je dansais avec des gestes plus violents pour que tu me remarques, mais tu ne me regardais pas. Je te disais, « Papa, regarde. Regarde. » Je luttais, mais tu ne me regardais pas.
Quand tu conduisais la voiture, je te disais « Fais le pilote de Formule 1 » et tu accélérais, tu allais à plus de 150 km à l'heure sur les petites routes de campagne. Ma mère avait peur, elle criait, elle te traitait de fou et toi, tu me regardais dans le rétroviseur en souriant.
Dans une famille de 6 ou 7 enfants. Ton père travaillait à l'usine. Ta mère ne travaillait pas. Il n'avait jamais connu autre chose que la pauvreté. Je n'ai presque rien d'autre à dire sur ton enfance.
Ton père est parti quand tu avais 5 ans. C'est une histoire que je raconte beaucoup. Un matin, il est parti pour travailler à l'usine. Il n'est pas revenu le soir. Ta mère, ma grand-mère, me disait qu'elle l'avait attendu, qu'elle n'avait pu faire que ça de toute façon, toute la première partie de sa vie, l'attendre.
Je lui avais préparé à manger pour le soir. On l'a attendu comme d'habitude, mais il n'est plus jamais revenu.
Ton père buvait, beaucoup. Et certains soirs, à cause de l'alcool, il frappait ta mère. Il attrapait des assiettes, des petits objets, parfois des chaises même, qu'il lui jetait au visage avant de s'avancer vers elle pour la frapper avec ses poings. Je ne sais pas si ta mère criait ou si elle endurait la douleur en silence. Toi, tu les regardais sans pouvoir rien faire, impuissant, enfermé dans ton corps d'enfant.
Ça aussi, je l'ai déjà raconté. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter quand je parle de ta vie, puisque des vies comme la tienne, personne n'a envie de les entendre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se répéter jusqu'à ce qu'ils nous écoutent, pour les forcer à nous écouter ? Est-ce qu'il ne faudrait pas crier ? Je n'ai pas peur de me répéter parce que ce que j'écris, ce que je dis, ne répond pas aux exigences de la littérature, mais à celles de la nécessité et de l'urgence, à celles du feu. Je l'ai déjà dit.
Quand ton père est mort, tu as voulu fêter la nouvelle, l'annonce de sa mort. Tu n'avais jamais oublié ce qu'il avait fait à ta mère. Ta sœur avait essayé de te réconcilier avec lui plusieurs fois. Elle était venue te voir pour te demander d'oublier, elle. Elle avait pardonné. Mais quand elle venait, tu te concentrais sur l'émission que tu regardais à la télé et tu faisais semblant de ne pas savoir qu'elle était là. Le jour où tu as appris la mort de ton père, donc, toute la famille était dans la cuisine. Tu fêtais tes 40 ans le même jour ou la même semaine. On regardait encore la télévision et tu as dit assez fort pour que tout le monde t'entende.
Quand j'y repense, peut-être que tu as parlé trop fort. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ton intonation. Comme une phrase que tu aurais préparée depuis plusieurs mois, artificielle.
Tu as dit, je vais acheter une bouteille pour fêter ça. Tu as pris ta voiture et tu as été acheter du pastis à l'épicerie du village. Tu as fait la fête toute la soirée. Tu riais, tu chantais.
C'est étrange. Parce que ton père était violent, tu répétais obsessionnellement que tu ne serais jamais violent, que tu ne frapperais jamais aucun de tes enfants. Tu nous disais « Je ne poserai jamais la main sur un de mes enfants, jamais de ma vie. » La violence ne produit pas que de la violence. J'ai répété cette phrase longtemps, que la violence est cause de la violence. Je me suis trompé. La violence nous avait sauvés de la violence. Ton père n'avait pas été le premier à avoir des problèmes d'alcool. L'alcool avait fait partie de ta vie avant ta naissance. Les histoires d'alcool se succédaient autour de nous. Les accidents de voiture, les chutes mortelles sur une plaque de verglas une nuit en rentrant d'un dîner trop alcoolisé, les violences conjugales dictées par le vin et par le pastis, d'autres histoires encore. L'alcool remplissait la fonction de l'oubli. C'était le monde qui était responsable. Mais comment condamner le monde ? Le monde qui imposait une vie que les gens autour de nous n'avaient pas d'autre choix qu'essayer d'oublier, avec l'alcool, par l'alcool. C'était oublier ou mourir, ou oublier et mourir. Oublier ou mourir, ou oublier et mourir de l'acharnement à oublier.
Cette soirée où j'avais préparé un faux concert pour toi avec les autres enfants, je me suis obstinée. Je ne voulais pas arrêter. Je voulais que tu me regardes. La gêne commençait à s'installer dans la pièce et je continuais à implorer « Regarde, papa, regarde !» 1998, c'est Noël. Je reconstitue l'image. J'essaye de faire de mon mieux, mais la réalité est comme les rêves. Plus j'essaye de la saisir et plus elle m'échappe. Toute la famille est autour de la table. Je mange beaucoup trop. Mais tu as acheté trop de nourriture pour le réveillon.
Tu avais toujours cette peur d'être différent des autres à cause du manque d'argent. Tu le répétais. Je ne vois pas pourquoi on serait différent des autres et pour cette raison, pour ça, tu voulais avoir sur la table tout ce que tu imaginais que les autres avaient et mangeaient pour Noël. Du foie gras, des huîtres, des bûches. Ce qui fait que, paradoxalement, plus nous étions pauvres, et plus on dépensait d'argent à Noël. Par angoisse de ne pas être comme les autres.
Je parle avec ma mère et avec mes frères et sœurs. Mais pas avec toi. Toi, tu ne parles pas. Tu dis que tu détestes les fêtes.
Quand le mois de décembre commence, Tu nous dis que tu as hâte que les fêtes soient terminées, passées, derrière nous. Et je crois que tu fais semblant de haïr le bonheur pour te faire croire que si ta vie a les apparences d'une vie malheureuse, c'est toi qui l'as choisie. Comme si tu voulais faire croire que tu avais le contrôle sur ton propre malheur. Comme si tu voulais donner l'impression que si ta vie a été trop dure, c'est toi qui l'as voulu. Par dégoût du plaisir, par détestation de la joie. Je crois que tu refuses d'avoir perdu.
À Noël, tous les ans, tu cachais les cadeaux dans le coffre de ta voiture. Tu attendais que je sois partie me coucher pour aller les chercher et les mettre au pied du sapin, que je puisse les trouver le lendemain quand je me réveillais.
Mais cette nuit-là, vers minuit, on ne dormait pas. J'ai entendu, et tous les autres avec moi, une explosion dehors. C'était comme si l'explosion avait eu lieu dans la cuisine, tellement elle était intense, immense. Je ne sais pas comment dire, comme si un avion s'était fracassé sur le sol devant chez nous, ou dans la cour derrière. Je ne trouve pas d'image pour le dire. Tu es sorti pour voir ce qui se passait, je t'ai suivi et j'ai vu. Ta voiture était là, mais compressée, réduite à l'état d'un morceau de métal sans forme, sans structure. Tout autour, il y avait des éclats de plastique et des lambeaux de papier cadeau déchiquetés qui volaient dans l'air. Et puis surtout, quelques mètres plus loin, devant ta voiture disparue, il y avait un énorme camion transporteur de motos. Le camion était éraflé par l'accident. Celui qui le conduisait, le responsable de tout ça, s'était arrêté pour contempler le drame. De loin, je voyais la condensation s'échapper de sa bouche, les volutes de fumée qui brouillaient son visage. Il ressemblait à un spectre. Quand il nous a vus, il a redémarré son camion et il a disparu plus loin dans la nuit. Et toi, tu l'as poursuivi. Ça n'avait pas de sens, tu n'aurais jamais pu rattraper un camion. Il n'y avait aucun espoir, rien, mais tu as couru et tu criais. « Je vais te buter, espèce de sale fils de pute !» Tu criais. « Je vais te buter !» Je t'ai vu courir derrière lui, ton corps s'effacer dans le noir, se dissoudre dans la pénombre, puis réapparaître et revenir, vaincu et essoufflé.
J'étais trop jeune pour me souvenir, mais je me souviens. Quand j'ai vu ton visage, qui regardait le cadavre de la voiture, j'ai pleuré de ce que j'ai vu sur ton visage. Et j'ai demandé comment tu allais faire maintenant pour aller à l'usine. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai pleuré toute la nuit de Noël. Pourquoi est-ce que j'ai pleuré? J'aurais dû pleurer parce que mes cadeaux avaient disparu. Je l'avais compris, je savais que tu les cachais dans la voiture. À 7 ans, je n'aurais pas dû pleurer à cause de la voiture. J'aurais dû pleurer à cause des cadeaux. Il aurait été logique que je pense à mes cadeaux. Est-ce que tu m'avais déjà fait comprendre que nous faisons partie de ceux que personne ne viendrait aider? Est-ce que tu m'avais déjà transmis le sens de notre place au monde?
Il me semble souvent que je t'aime.
Quand je lui posais des questions sur toi, ma mère me disait que la disparition de ton père vous avait imposé une misère encore plus grande. Ta mère se retrouvait seule avec 6 ou 7 enfants. Elle n'avait pas fait d'études. Elle ne pouvait pas trouver de travail. Peter Handke dit
« Naître femme dans ces conditions, c'est directement la mort. »
Pourtant, ma mère disait aussi que vous aviez été beaucoup plus heureux parce que l'homme de la famille avait disparu et avec lui, sa violence, la peur de ses réactions, sa folie masculine.
Ce qu'on appelle l'histoire n'est que l'histoire de la reproduction des mêmes émotions, des mêmes joies à travers les corps et le temps. Et ma mère a connu le même bonheur quand elle t'a chassé. Un de ces soirs de la semaine où tu ne rentrais pas parce que tu étais chez ton frère ou au café, alors que ma mère t'attendait, elle a emballé tes habits dans des sacs poubelles et elle les a jetés sur le trottoir, par la fenêtre.
J'étais adulte, j'avais 18 ans, je ne vivais plus avec vous, mais elle me l'a raconté. Tu étais partie avec tes copains sans lui dire quand tu rentrerais. Pendant des années, elle n'avait fait que ça, elle aussi, t'attendre, comme ta mère avec ton père avant vous. Mais ce soir-là, elle a décidé que ce serait fini. Vous aviez vécu 25 ans ensemble. Tu es rentré au milieu de la nuit, mais la porte était fermée. Tu as tapé contre les murs, contre les fenêtres. Tu as crié que tu ne comprenais pas encore pourquoi tes habits étaient sur le trottoir, dans des sacs en plastique noir. Tu faisais semblant de ne pas encore comprendre. Ma mère t'a crié à travers la porte de ne plus jamais revenir. Tu as demandé « plus jamais ». Et elle a répété
« plus jamais ».
C'était fini. Après ton départ, elle n'a plus été comme elle le disait elle-même, la même personne. À presque 50 ans, elle est partie vivre dans une grande ville pour la première fois de sa vie. Elle a voyagé. Elle s'est découvert des passions et surtout des dégoûts nouveaux. Elle s'est mise à dire, elle qui avait vécu depuis sa naissance...
Oh, la mentalité de la campagne.
Le soir du faux concert, je commençais vraiment à m'essouffler, mais je ne voulais pas abandonner. Je ne sais pas combien de temps j'ai continué, mais j'insistais. Regarde, papa, regarde. Regarde. Tu as fini par te lever et dire « Je vais fumer une clope dehors. » Je t'avais blessée.
Tu ne t'es jamais remis de la séparation avec ma mère. Quelque chose en toi a été détruit. Comme toujours, c'est la séparation qui t'a fait comprendre à quel point tu l'aimais. Après la rupture, tu es devenue plus sensible au monde. Tu es tombée plus souvent malade. Tout te blessait. C'est comme si la douleur de la séparation avait ouvert une plaie qui avait permis soudain à ce qui t'entourait, au monde et donc à la violence, d'entrer en toi. Quand tu étais de bonne humeur, tu appelais ma mère Choupette, Bibiche, maman. Tu lui mettais des claques sur les fesses devant les autres et elle te disait
« Arrête ! Se faire ça, ça fait vulgaire !»
Tu riais. Elle riait de ton rire. Elle se plaignait que tu ne lui offres que des aspirateurs, des casseroles ou des choses pour entretenir la maison à ses anniversaires.
« Je ne suis quand même pas qu'une boniche !»
Elle me disait
« Après chaque dispute, ton père me promet qu'il va changer. Il dit toujours qu'il va changer, mais il ne change jamais. Chien qui a mordu, mordra. »
Le soir du faux concert, est-ce que je t'ai blessée? Parce que j'avais choisi de faire la chanteuse, la fille.
Tu n'as pas étudié. Abandonner l'école le plus vite possible était une question de masculinité pour toi. C'était la règle dans le monde où tu vivais.
Être masculin, ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un pédé.
Il n'y avait que les filles et les autres, ceux qui étaient suspectés d'avoir une sexualité déviante, pas normale, qui acceptaient de se soumettre aux règles de l'école, à la discipline, à ce que les professeurs demandaient ou exigeaient.
Pour toi, construire un corps masculin, cela voulait dire résister au système scolaire, ne pas te soumettre aux ordres, à l'ordre, et même affronter l'école et l'autorité qu'elle incarnait.
Au collège, un de mes cousins avait giflé un professeur devant toute sa classe. On parlait toujours de lui comme d'un héros.
La masculinité, ne pas se comporter comme une fille, ne pas être un pédé. Ce que ça voulait dire, c'était sortir de l'école le plus vite possible pour prouver sa force aux autres. Le plus tôt possible pour montrer son insoumission. Et donc, c'est ce que j'en déduis, construire sa masculinité, c'était se priver d'une autre vie, d'un autre futur, d'un autre destin social que les études auraient pu permettre. La masculinité t'a condamné à la pauvreté, à l'absence d'argent. Haine de l'homosexualité égale pauvreté.
Je voudrais essayer de formuler quelque chose. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai le sentiment que ton existence a été, malgré toi et justement contre toi, une existence négative. Tu n'as pas eu d'argent, tu n'as pas pu étudier, tu n'as pas pu voyager, tu n'as pas pu réaliser tes rêves. Il n'y a dans le langage presque que des négations pour exprimer ta vie.
Dans son livre « L'être et le néant », Jean-Paul Sartre s'interroge sur les rapports entre l'être et les actes. Sommes-nous définis par ce que nous faisons? Notre être est-il défini par ce que nous entreprenons? La femme et l'homme sont-ils ce qu'ils font? Ou est-ce qu'il existe une différence, un écart entre la vérité de notre personne et nos actes?
Ta vie prouve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire, nous sommes ce que nous n'avons pas fait
parce que le monde ou la société nous en a empêchés, parce que ce que Didier Héribon appelle des verdicts se sont abattus sur nous, gays, trans, femmes, noirs, pauvres, et qui nous ont rendu certaines vies, certaines expériences, certains rêves inaccessibles.
Ça commence. T'achètes de sucre, check ça. C'est bon.
J'en suis pas. On est juste les costumes d'autres sur soi.
On s'est ramassé à Los Angeles. Écoute en loup, pasteur.
J'entends parler pour la première fois de la guerre froide, de la division de l'Allemagne en deux, de Berlin séparé par un mur, puis de la chute de ce mur. Le fait qu'une grande ville aussi proche de nous ait pu être divisée presque du jour au lendemain en deux parties par un mur a eu l'effet d'une tempête sur moi. J'étais fascinée. Toute la journée, je n'ai plus écouté ce qu'on me disait, je ne pensais plus qu'à ça. Je n'étais plus capable d'autre chose. J'essayais d'imaginer le mur posé au milieu d'une route que le jour d'avant, des femmes et des hommes pouvaient traverser sans réfléchir. Tu avais déjà plus de 20 ans quand le mur a été détruit. Alors j'ai fantasmé tout le temps que la journée a duré les questions que j'allais te poser. Est-ce que tu connaissais des personnes qui avaient vu le mur, des femmes ou des hommes qui l'avaient touché, qui avaient participé à sa destruction ? Qu'est-ce que c'était, cette Europe divisée en deux ? Dis-moi, ce mur de ciment entre deux Europes. Le bus qui me ramenait à la maison m'a déposé sur la place du village. Mais contrairement à d'habitude, je ne suis pas rentrée le plus lentement possible en traînant dans la rue. Je n'ai pas prié pour que ta voiture ne soit pas sur le trottoir. J'ai couru. J'ai couru plus vite que jamais, la tête pleine de toutes ces questions. Je te demandais tout ce qui s'était accumulé dans ma tête et tu as répondu vaguement. Oui, oui, c'est vrai, il y avait un mur. Ils en parlaient à la télé. Et c'est tout ce que tu m'as dit. J'ai attendu, mais tu m'as tourné le dos. Alors j'ai insisté. Mais dis-moi, comment c'était ? Qu'est-ce que c'était ? À quoi ressemblait le mur ? Est-ce que si la personne qu'on aimait habitait de l'autre côté du mur, on ne pouvait plus jamais la voir, plus jamais ? Tu n'avais rien à dire. J'ai commencé à voir que mon insistance te faisait mal. J'avais 12 ans, mais je disais des mots que tu ne comprenais pas. J'ai quand même insisté un peu plus, et là tu t'es énervé. Tu as crié. Tu m'as dit de ne plus te poser de questions, mais tu n'étais pas énervé comme d'habitude, ce n'était pas un cri normal. Tu avais honte parce que je te confrontais à la culture scolaire, celle qui t'avait exclu, qui n'avait pas voulu de toi.
Où est l'histoire ? L'histoire qu'on enseigna à l'école n'était pas ton histoire à toi. On nous apprenait l'histoire du monde, et tu étais tenu à l'écart du monde.
1999. Je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me prépare à avoir 8 ans. Tu m'as demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et je t'ai répondu « Titanic ». La version VHS du film venait de sortir. On voyait la pub passer plusieurs fois par jour à la télévision en boucle.
Je ne sais pas ce qui m'a attiré autant dans ce film. Je ne saurais pas dire l'amour, le rêve partagé de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet, de devenir quelqu'un d'autre, la beauté de Kate Winslet.
Je ne sais pas, mais j'étais obsédée déjà par ce film que je n'avais pas encore vu et je te l'ai demandé. Tu m'as répondu que c'était un film pour les filles et que je ne devais pas vouloir ça. Ou plutôt, je parle trop vite. D'abord, tu m'as supplié de vouloir autre chose. Tu veux pas plutôt une voiture télécommandée ou un costume de super-héros ? Réfléchis bien. Mais moi, je te répondais, non, non, c'est Titanic que je veux. Et c'est après mon insistance, après ton échec, que tu as changé de ton. Tu m'as dit que, puisque c'était comme ça, je n'aurais rien, pas de cadeau. Je ne me rappelle pas si j'ai pleuré. Les jours ont passé. Le matin de mon anniversaire, j'ai trouvé au pied de mon lit un grand coffret blanc, avec écrit dessus en lettres d'or « Titanic ». À l'intérieur, il y avait la cassette, mais aussi un album photo sur le film. Peut-être une figurine du paquebot. C'était un coffret de collection sûrement trop cher pour toi, et donc pour nous. Mais tu l'avais acheté et tu l'avais déposé près de mon lit, enveloppé dans une feuille de papier. Je t'ai embrassé sur la joue et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé regarder ce film près d'une dizaine de fois par semaine, pendant plus d'un an. Soir du faux concert, est-ce que je t'ai blessée parce que j'avais fait la fille et parce que tu pensais que tes amis te jugeraient pour ça, qu'ils te rendraient coupable de m'avoir élevée comme une fille?
Tu avais peur des rats et des chauves-souris. Je ne sais pas pourquoi ces animaux plutôt que les autres. Tu prenais des poignées de gruyère râpées et tu les mangeais, la bouche par-dessus le paquet grand ouvert. Je voyais des morceaux de fromage qui retombaient à l'intérieur du paquet, tomber depuis ta bouche vers l'intérieur du paquet. Et je te le reprochais. Je ne veux pas manger le fromage qui a été dans ta bouche. Tu rêvais de travailler dans une morgue. Tu disais, au moins les morts ne font pas chier les autres.
Après le faux concert, je t'ai rejoint dehors où tu fumais compulsivement. Tu étais seule, en t-shirt. Il faisait froid, la rue était déserte et l'absence de bruit presque infinie. Le silence me rentrait dans la bouche et dans les oreilles. Je le sentais. Tu regardais vers le sol. Je t'ai dit « Pardon, papa ». Tu m'as pris dans tes bras et tu as dit « Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. »
Tu as essayé d'être jeune pendant 5 ans. Quand tu es partie du lycée, seulement quelques jours après avoir commencé, tu as été embauchée à l'usine du village, mais tu n'es pas restée longtemps non plus. À peine quelques semaines. Tu ne voulais pas reproduire la vie de ton père et de ton grand-père avant toi. Ils avaient travaillé directement après l'enfance, à 14 ou 15 ans. Ils étaient passés sans transition de l'enfance à l'épuisement, et à la préparation à la mort, sans avoir le droit aux quelques années d'oubli du monde et de la réalité que les autres appellent la jeunesse.
C'est une formule un peu bête, ça. Les quelques années d'oubli que les autres appellent la jeunesse.
Toi, pendant 5 ans, tu as lutté de toutes tes forces pour être jeune. Tu es partie vivre dans le sud de la France en te disant que là-bas, la vie serait plus belle, moins écrasante de par la présence du soleil. Tu as volé des mobilettes, tu as passé des nuits sans dormir, tu as bu le plus possible. Tu as vécu toutes ces expériences le plus intensément et le plus agressivement possible, à cause du sentiment que c'était quelque chose que tu volais.
C'est ça. C'est là que je voulais en venir. Il y a ceux à qui la jeunesse est donnée et ceux qui ne peuvent que s'acharner à la voler.
Un jour, ça s'est arrêté. Je pense que c'est à cause de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Tu as tout arrêté et tu es retourné dans le village où tu étais né, ou celui juste à côté, ce qui revient au même, et tu t'es fait embaucher dans l'usine où toute ta famille avait travaillé avant toi.
Mécanisme classique. Comme tu as eu l'impression de ne pas avoir vécu ta jeunesse jusqu'au bout, tu as essayé de la vivre pendant toute ta vie. C'est le problème avec les choses volées. Comme toi avec ta jeunesse. On ne peut pas réussir à penser qu'elles nous appartiennent vraiment. Et il faut continuer à les voler pour l'éternité. C'est un vol qui n'en finit pas. Tu voulais la rattraper, la récupérer, la revoler. Il n'y a que ceux à qui on donne tout depuis toujours qui peuvent avoir un vrai sentiment de possession, pas les autres. La possession n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir.
Une de ces tentatives d'être jeune encore, d'être jeune enfin, a eu lieu quand tu étais avec ton ami Anthony. Est-ce que tu t'en souviens? Vous étiez en voiture et vous avez vu la police derrière vous. Vous aviez bu beaucoup d'alcool. Et il vous aurait pris votre permis de conduire s'il vous avait arrêté et il ne vous l'aurait jamais rendu. Vous avez eu la sensation qu'il vous suivait, alors vous avez accéléré, vous avez roulé plus vite, comme dans une course-poursuite pour ne pas qu'il vous rattrape. Vous ne vous êtes pas arrêté au feu, vous avez accéléré encore. J'imagine que tu imitais les courses-poursuites que tu regardais toute la nuit à la télé entre la police et des gangs américains. Même dans les moments les plus intenses de notre vie, il me semble que nous continuons à imiter des scènes et des rôles vus dans la littérature ou dans les films. Vous avez roulé jusqu'à une rivière, vous êtes sorti de la voiture et vous avez sauté dans l'eau pour que la police ne vous arrête pas. Je ne suis même pas sûre qu'il vous suivait vraiment. Vous avez nagé, toi qui avais peur de l'eau, plus que de n'importe quoi d'autre. Toi qui avais même peur de prendre des bains à cause de cette phobie. L'eau te faisait tellement peur. Vous avez nagé dans l'eau glacée et vous êtes sorti de la rivière quelques centaines de mètres plus loin. Vous avez attendu longtemps, les pieds enfoncés dans la terre jusqu'aux chevilles et le corps trempé en espérant que la police s'éloignerait. Et puis, vous êtes revenu chez ma mère, les habits imbibés de l'eau qui sentait l'odeur de la vase et du poisson. L'eau coulait sur vous, sur vos corps. Sur le sol, les gouttes glissaient sur le tissu de tes vêtements et venaient s'écraser par terre, sans bruit.
Tu ne racontais pas cette anecdote toi-même, puisque tu ne parlais jamais. Mais quand ma mère la racontait, souvent, plusieurs fois par mois, tu souriais et tu disais « C'est vrai qu'on a bien rigolé ». Tu avais réussi à reprendre un moment à ta jeunesse.
Tu étais fascinée par toutes les innovations technologiques, comme si à travers la nouveauté qu'elles incarnaient, tu avais voulu insuffler dans ta vie un renouveau auquel tu n'avais pas eu droit. Tu commentais avec un mélange d'envie et d'admiration dans ta voix les pubs pour les nouveaux téléphones, les tablettes ou les ordinateurs. Tu ne les achetais pas, ils coûtaient trop cher. Tu te contentais des gadgets que des vendeurs itinérants venaient présenter à la brocante du village. Une montre qui tourne à l'envers, une machine pour faire du coca chez soi, un laser qui pouvait projeter l'image d'une femme nue sur un mur à plus de 100 mètres.
Il y a plus d'objets que de personnes dans nos souvenirs.
Tu vois, tu vivais ta jeunesse à travers la jeunesse de ces objets. Autre chose, au mois de septembre, il y avait des manèges installés dans le village pour la fête foraine, des stands de tir à la carabine, des machines à sous. Tu dépensais le budget du mois en 4 jours. L'argent qui devait servir à payer la nourriture, les factures, le loyer. Ma mère disait
« Je suis pas mariée à un homme, je suis mariée à un gosse. » Je parle de toi au passé parce que je ne te connais plus. Le présent serait un mensonge.
Une image. C'est l'été, c'est la nuit en plein jour. L'obscurité recouvre l'immensité du monde. Elle nous recouvre, toi, moi, et le champ de maïs où je suis debout à côté de toi. Il est peut-être midi, mais il fait nuit. Tu me dis, éclipse de soleil. Tu me dis, ne retire pas tes lunettes ou la lune va te brûler les yeux et tu ne verras plus jamais rien. Tu me dis, c'est la seule fois, la prochaine fois que quelque chose comme ça arrivera sur Terre, on sera tous morts. Même toi. Même toi, tu seras mort.
Tu m'avais offert cette montre qui tournait à l'envers. Celle que tu avais achetée à la brocante. Je l'ai perdue.
Une autre image. Tu conduis. Je suis sur la banquette, derrière toi. Il n'y a que nous, et tu dis « On va rouler sur les vagues ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'avais jamais entendu l'expression. Tu dis encore « On va rouler sur les vagues » et tu fonces vers la mer. Tu roules sur le sable et la mer s'approche. Les vagues avancent vers nous. Je pense que tu vas nous tuer, que tu veux mourir et que tu veux que je meure avec toi. Je crie « Non, papa, non, s'il te plaît !» Je ferme les yeux. Je ne veux pas mourir. Tu approches encore et au bord de l'eau, tu tournes le volant d'un coup simple et bref. Et tu roules non plus vers l'intérieur des vagues, mais parallèlement à elles. Deux roues sur le sable et deux autres dans l'eau. Ta voiture en partie immergée d'une vingtaine, peut-être 30 centimètres. Je me déplace sur la banquette. Je regarde à travers la vitre du côté de l'eau. Et c'est vrai. Je ne vois que la mer et ta voiture qui roule dessus, à sa surface. Il n'y a rien d'autre. Tu me répètes. Tu vois, je te l'avais dit. On roule sur les vagues.
J'ai oublié presque tout ce que je t'ai dit quand je suis venue te voir la dernière fois. Mais je me souviens de tout ce que je ne t'ai pas dit. D'une manière générale, quand je repense au passé et à notre vie commune, je me souviens avant tout de ce que je ne t'ai pas dit. Mes souvenirs sont ceux de ce qui n'a pas eu lieu. Après les années de lutte pour le droit à être jeune, la vie conjugale. Tout se passait dans l'ordre. Quand elle t'a rencontré, ma mère avait déjà deux enfants qu'elle avait faits avec son premier mari, celui qu'elle avait connu avant toi. Tu as tout de suite voulu les considérer comme tes propres enfants. Tu dormais avec eux quand ils avaient peur la nuit, même s'ils étaient déjà grands. Tu leur as proposé d'adopter ton nom de famille.
Volonté de passer pour un bon père devant les autres, ou amour pur, la frontière entre les deux est toujours trop mince pour pouvoir juger.
Tu m'as giflé la fois où j'ai dit que mon grand frère n'était que mon demi-frère. Tu m'as repris. Il n'y a pas de demi-frère. Moi, je n'ai pas de demi-gosse.
2006. J'ai presque fini. Je n'ai presque plus rien à raconter. C'est une des dernières scènes. Après, ce sera l'oubli. La scène se passe dans le bus, sur un siège de bus scolaire recouvert d'une... une espèce de moquette délavée, vert et bleu. Je suis assis. Un peu plus loin, à trois ou quatre rangées de sièges devant moi, il y a mon cousin, Jason. Il rigole. Et il ne rigole pas d'une façon normale. Il chante, il pousse des cris. Le chauffeur lui demande de se taire. Jason ne veut pas. Il ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est une de ces crises qui est en train de le traverser. Il est né avec ce handicap qui lui fait faire des crises plusieurs fois par mois sans qu'on puisse prévoir quand elles vont arriver et il ne peut pas s'arrêter. Il n'entend plus le monde autour de lui. Le chauffeur lui demande une deuxième fois de se taire et Jason rigole encore plus fort d'une façon de plus en plus incontrôlable. Alors le chauffeur arrête le bus d'un coup sec, tire le frein à main, se lève et il s'approche de mon cousin pour le frapper. Il avait déjà attrapé Jason par le col de son t-shirt quand j'ai compris ce qui se passait, ce qui allait arriver. Il avait levé son autre main pour l'abattre sur son visage, mais à ce moment-là, je me suis redressée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, car ça ne me ressemblait pas. Je n'étais pas quelqu'un de courageux. Et je lui ai dit de ne pas s'en prendre à quelqu'un de handicapé. Le chauffeur a interrompu son geste. Il a fait pivoter son corps. Il a marché vers moi. Je ne bougeais pas. Et c'est à moi qu'il a donné une gifle. Quand je suis rentrée le soir, je te l'ai raconté, papa. Tu m'as écouté. Tu commençais déjà à te tendre. Tu soufflais. Et tu as dit que tu me vengerais. Je t'ai demandé de ne pas le faire, j'avais peur des conséquences de ta vengeance. Je sais comment ces choses-là marchent, mais c'était trop tard. Le lendemain, tu as donc attendu sur la place du village. Tu es entré à l'intérieur du bus quand il s'est arrêté. Tu as attrapé le chauffeur par le cou et tu lui as dit de ne plus jamais me toucher. Les autres enfants qui étaient là avaient l'air de t'admirer. Même à moi, ils me souriaient. Ta force se reflétait sur moi. Mais le lendemain, ceux qui t'avaient vu menacer le chauffeur m'ont dit que je ne savais pas me défendre moi-même et que j'avais besoin de mon père pour me défendre. Pendant plusieurs mois, ils se sont moqués et sans me laisser répondre, avant de me laisser réagir, ils disaient « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler ton père maintenant ?»
Alors que je t'ai si peu appelé.
Dans le train qui s'approchait de cette ville où tu habites maintenant, l'autre jour j'ai écrit « Les autres, le monde, la justice, n'arrêtent pas de nous venger sans se rendre compte que leur vengeance ne nous aide pas, mais nous détruit. Ils pensent nous sauver avec leur vengeance, mais ils nous détruisent.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath a halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed.
Toujours sur Radio Canu avec le Théâtre de la Gamelle et vous venez d'écouter la première partie du texte d'Édouard Louis « Qui a tué mon père ?». Vous pourrez retrouver le second volet la semaine prochaine, le vendredi 28 juin, toujours à la même heure, de 13h à 14h. Un grand merci aux lecteurs et lectrices, Amandine, Anne-Sophie et Gauthier.
Merci à toi Charlotte.
Merci
Charlotte. Beaucoup.
Et puis on vous dit à la semaine prochaine, profitez bien de cette fin de semaine. Bon vent.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Rien d'une ardeur. Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.